Donc là, vous avez une pochette avec ces deux. Vous avez amené ces dessins.
Ouais. C'est des dessins qui, comme une espèce d'obsession, dessinent toujours cet homme avec la moustache, cet enfant sans bouche qui crie au secours, ce serpent. Plus tard, je les ai montrés à des psychiatres qui m'ont dit que c'était des symboles phalliques, en fait.
Oui, le symbole qui vous traverse, en
exactement.
Fait.
Hein. Exactement. Et estampillé 31 janvier 78, c'est-à-dire quelques mois après les viols.
Donc ça, c'est une petite fille de 5 ans qui se dessine et qui appelle au secours.
Voilà.
Bonjour à tous. L'année dernière, près de 16 000 viols ont été déclarés en France, selon le ministère de l'Intérieur. Une hausse de 14% par rapport à 2015. La majorité de ces crimes, 8184 exactement, ont été perpétrés contre des mineurs. Encore, ces statistiques ne concernent-elles que les cas déclarés, car on estime que de nombreuses victimes ne portent jamais plainte. Et justement, dans le cas des enfants, c'est bien souvent longtemps après les faits que les victimes se décident à parler, d'où l'interrogation sur la prescription des crimes sexuels commis sur les mineurs. Actuellement, elle est de 20 ans après la majorité de la victime. En clair, après l'âge de 38 ans, celle-ci ne peut plus espérer voir son bourreau traduit en justice. Or, il faut souvent de longues années pour que les victimes se décident à parler, soit parce qu'elles se l'interdisent, soit même parfois parce qu'elles sont victimes d'une amnésie traumatique, un phénomène qui efface l'événement de leur mémoire, celui-ci pouvant revenir à la faveur d'un choc ou d'une thérapie. L'animatrice de télé, Flavie Flamand, elle-même victime du photographe David Hamilton qui s'est suicidé peu de temps après la révélation des faits, a co-dirigé avec l'ancien magistrat Jacques Calmette une mission gouvernementale sur le délai de prescription applicable à ces crimes. L'une de ses recommandations est d'allonger ce délai à 30 ans. Certaines victimes réclament même l'imprescriptibilité totale, comme l'a décidé l'État américain de Californie après l'affaire Bill Cosby. La mission Flamand-Calmette devrait chez nous inspirer bientôt un projet de loi. Faut-il allonger la prescription pour les viols d'enfants? C'est un reportage de Delphine Gaucho.
Interception, le magazine de la rédaction.
Ils interrompent deux minutes.
On ne vend rien, on ne fait pas de politique.
Oui.
Voilà, on défend juste un sujet de société qui nous tient à cœur.
Oui.
En fait, vous connaissez la question de la prescription pénale?
Non.
Ça vous dit rien?
Non.
En fait, en France, quand un enfant est violé, quand il est mineur, il a jusqu'à l'âge de 38 ans pour porter plainte.
D'accord.
Après, c'est terminé.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et en fait, nous, on est un collectif d'associations. On est une vingtaine d'associations. Et on promeut ce petit ruban, voilà, pour dire que on voudrait rallonger les délais de prescription de telle sorte à permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible et surtout que la société soit et zéro tolérance par rapport aux crimes pédophiles. Quoi. Voilà.
Donc, et il y a moyen vraiment que les choses changent par rapport à ça?
Et ben, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu le rapport Flamand de Flavie Flamand.
Oui.
Voilà, elle a participé à une mission gouvernementale. Et en fait, ils se sont entendus avec les magistrats pour préconiser justement l'allongement à 30 ans. Mais comme c'est qu'une mission, maintenant il faut que le gouvernement le traduise en loi.
J'avais entendu, mais je ne savais pas si du coup ça avait porté ses fruits par rapport à ça au niveau pénal.
Est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur aussi ou...
Moi je suis institutrice, donc bien sûr que oui, c'est des choses qui me tiennent à cœur.
Juste pour que vous compreniez, en fait, donc Janine s'occupe des enfants, Pierre-Emmanuel est dans l'association La Parole Libérée. Et puis moi je suis dans ce collectif et j'ai aussi été victime d'amnésie traumatique. Donc les souvenirs des viols m'ont explosé à la conscience à l'âge de 37 ans. Et j'ai déposé plainte à l'âge de 39 ans quand c'était terminé. C'était trop tard, voilà.
Nous sommes dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon au mois de juin. Niekoyama distribue dans la rue des rubans de couleur vert pomme. Deux mots sont écrits sur ces petits bracelets en tissu. Stop prescription. Niekoyama a aujourd'hui 45 ans, elle est journaliste. Depuis 6 ans, cette femme au regard pétillant avec des taches de rousseur qui parsèment son visage mène un combat qui la conduit jusqu'à la Cour de cassation, la plus haute juridiction française. Elle veut rendre les crimes sexuels commis sur des mineurs imprescriptibles. Un combat qui raconte d'abord sa propre histoire, celle d'une petite fille de 5 ans, abusée pendant des vacances d'été et qui, pour survivre à ce traumatisme, a enfoui le souvenir de ses viols dans le caveau de sa mémoire pendant des décennies. Avec Millet, nous sommes retournés sur les lieux de ces agressions, quelque part au bord de la Charente. plein de trucs, on se trouve où en fait?
Alors, c'est donc l'ancienne maison de ma grande-tante, où j'ai passé plusieurs étés de mon enfance, dont ce fameux été où j'ai été victime de ces abus. 40 ans après, en fait, rien n'a changé, en tout cas dans la façade de la maison. Là, c'est la porte du garage d'où mon agresseur en fait m'a sorti violemment, brutalement, avec mon petit vélo. Donc, il me sort de ce garage et il m'emmène directement dans le petit passage qui est juste quelques mètres sur la gauche, où a lieu un des abus qui a brutalement ressurgi à ma mémoire 40 ans après. Et donc, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que, si vous voulez, tout est conforme, tout est semblable, tout est comme je l'ai dans le temps. C'est-à-dire que quand je vous parle, là, je suis quasiment dans le corps d'une petite fille de 5 ans. Enfin, c'est vraiment, c'est ça ce qu'il y a de phénoménal dans cette histoire. C'est fou, hein? Ça a changé, tout ça, c'est nouveau, mais... Donc ça, c'est moi, juste après les viols.
Donc ça, c'est des photos.
Été 77.
Voilà,
77.
Des photos qui sont à vous, de votre album. Voilà.
Des photos du jardin, de ma grande-tante, en fait. Voilà.
Donc là, vous avez 5 ans.
Voilà, exactement.
Donc une petite fille qui sourit, mm-hmm. avec un petit short rose, des petites sandalettes, un t-shirt et un grand sourire.
Mm-hmm. Voilà, donc ça, c'est le jardin à l'époque. Donc on va rentrer maintenant dans ce jardin qui a un peu changé, mais qui a gardé. Et alors, ce qu'il y a d'incroyable là, c'est qu'en fait, il y a la même odeur qu'il y avait il y a 40 ans en arrière. Quand mon agresseur est arrivé ce matin-là, il m'a appris à faire du vélo sur cette petite allée qui, à l'époque, moi j'ai l'impression d'être grande là aujourd'hui en fait, mais dans mon souvenir, cette allée, elle était immense, parce que je ne savais pas faire du vélo, j'ai un petit vélo blanc, et donc il arrive et tout de suite, il faut absolument qu'il m'apprenne à faire du vélo, donc il me pousse sur cette allée. Donc je tombe, il me remet sur le vélo, je retombe, il me remet sur le vélo, puis je me souviens, il faisait chaud et ça me paraissait hyper grand en fait. Et à un moment donné, ben, j'ai réussi à faire comme les enfants, quoi, 2-3 mètres sans tomber. Et c'est donc après m'avoir appris à faire du vélo, il arrive ce matin-là que il m'emmène dans le passage qui est à côté.
Et qui était cet homme qui vous a agressé?
C'était un on va dire un cousin éloigné en fait. C'était le mari de la nièce de ma grande-tante. Fin 2008, j'ai un choc émotionnel quand je rencontre ma supérieure hiérarchique qui, pour une raison que j'ai compris bien après, a fait ressurgir à l'intérieur de moi des souvenirs de la petite enfance de façon hyper précise, c'est-à-dire comme si j'avais une caméra à la main. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai croisé le regard de cette supérieure hiérarchique, j'ai revu en cinématographique des souvenirs très précis de mon enfance sur un âge qui était approximativement situé entre 5 et 7 ans. C'est-à-dire que je voyais des scènes où je jetais des billes avec le calot, les agates dans le parc de mon école. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, plus tard, j'ai su que cette femme, qui est devenue une amie très proche, a eu, elle aussi, un traumatisme au même âge que moi. Elle a été opérée à cœur ouvert quand elle avait 5 ans et elle en a gardé des séquelles terribles, traumatisantes. Donc je pense qu'en fait, nos deux traumatismes ont dû faire miroir. Sauf que moi, à l'époque, j'ignore ce que c'était. J'ignore pourquoi, dans cette émotion incroyable de cette rencontre, ces souvenirs ressurgissent en cascade. Et je crois perdre les pédales. Je ne comprends pas pourquoi, d'un coup, des souvenirs auxquels je n'ai pas pensé depuis plus de 30 ans ressurgissent à ma mémoire comme ça. Mais vraiment caméra à la main, c'est-à-dire à la taille d'un enfant.
Et à un moment donné, je vais voir un officier de gendarmerie dans le cadre d'une enquête qui me parle de l'audition sous hypnose, mais il dit mais en France c'est pas reconnu, etc. Et je sais pas pourquoi le cerveau parfois ça fait tilt dans ma tête, je me dis mais j'ignore qu'est-ce qui se passe, mais je me dis bah, peut-être qu'on peut avoir des réponses comme ça. Et donc je franchis la porte d'un hypnothérapeute donc en janvier 2009 à Grenoble, et dans les deux minutes où il m'allonge sur la table, ressurgissent mais comme une bombe atomique et de la même façon, aussi précisément avec une caméra à la main, les souvenirs du premier viol que j'ai subi dans le passage où on n'a pas été encore. Et quand je dis caméra à la main, c'est-à-dire que je vois les bras de mon agresseur, parce que je suis petite, donc je vois les détails des bras, et je vois je hurle le surnom de mon agresseur. En fait, c'est comme ça que la boîte de Pandore s'est ouverte. Vraiment, c'est l'été 77, c'est juste avant le repas du midi, il fait extrêmement chaud. Et en fait, on me sort du garage et puis il m'emmène brutalement dans ce passage.
Cette ruelle du Poisereau.
Voilà. Donc là, cette ruelle, elle est exactement pareille, exactement semblable en moindre point à ce qu'elle était il y a 40 ans en arrière. En fait, la scène qui ressurgit à ma mémoire, c'est que je suis contre le mur, mon petit vélo blanc est en face, et lui abuse de moi. Et en fait, aujourd'hui, j'ai encore du mal à trouver les mots, parce qu'en fait, toutes mes émotions ressentent encore... ressentent encore la brutalité de ce qui m'a fait subir, en fait. Ouais. Et c'est...
On sent que vous êtes bouleversée. C'est comme si, oui, vous étiez dans ce même état de cette petite fille de 5 ans, vous, ça, il y a 40 ans, en revenant ici, en étant là.
Mais en fait, ça paraît difficile à comprendre, parce que je suis grande à l'époque, je suis petite, mais... Mais dans ce que je ressens, je me sens tellement hantée par cette scène qu'en fait, j'ai presque du mal à trouver les mots et à dire ce qui s'est passé, parce qu'au moment où je vous parle, je la revis en fait à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que il y a quelque chose, il y a une partie de moi qui est ce qu'on appelle dissocié, c'est-à-dire que je suis avec vous, mais en fait, une partie de moi est 40 ans en arrière dans cette scène-là, en fait. Donc, c'est assez... Voilà, c'est...
C'est très violent.
C'est très violent, et c'est ce qui est... Souvent, on entend des discours sur le fait que à un moment donné, il faut tourner la page du passé. Je peux l'entendre, mais si vous voulez, cette page du passé, elle se tourne pas comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a beau faire certains efforts, il y a cette page du passé qui restera comme une marque rouge et qui est complètement ancrée et dans mon cerveau et dans mes émotions.
Cette marque du passé, elle a ressurgi seulement il y a 9 ans.
Oui, certes, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mais c'est pour ça que c'est très important de dire que quand la marque du passé ressurgit et quand l'amnésie traumatique est levée, c'est le chariot de violence qui a été étouffé et qui ressurgit de la même manière que 40 ans en arrière, qui ressurgit. Donc en fait, c'est comme si on reprenait les choses à zéro. C'est-à-dire c'est comme si j'avais été à nouveau violée en 2009 et c'est comme si finalement ça faisait que 8 ans que j'essayais de me sortir de cette histoire.
Thank you.
Muriel Salmana, je suis psychiatre, psychotraumatologue spécialisée dans la prise en charge des victimes de violences en général, et je suis présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, association de formation, de recherche, de sensibilisation et d'information. On sait qu'en moyenne, c'est 40% des victimes de violences sexuelles dans l'enfance qui présentent une amnésie traumatique de longue durée et 60% des amnésies partielles. Et ça s'explique essentiellement par en fait, un processus de sauvegarde, de survie, qui est mis en place par le cerveau. C'est une dissociation traumatique qui anesthésie la personne, la coupe de certaines émotions. C'est pas que le souvenir a disparu, mais il est noyé dans un ensemble, dans une sorte de brouillard. Hein. Et puis c'est quand la dissociation disparaît, à ce moment-là, les souvenirs reviennent, mais c'est pas des souvenirs autobiographiques normaux, c'est une mémoire traumatique qui réenvahit comme une sorte d'explosion, de séisme émotionnel.
Comme si ça s'était passé la veille.
Voilà, exactement. Comme si ça se passait actuellement, quoi. C'est là, c'est présent, on est de plein pied, c'est une machine à remonter le temps. On revit dans ces cas-là la situation, effectivement, comme si elle était en train de se reproduire avec la même terreur, les mêmes émotions, les mêmes douleurs, les mêmes perceptions, les mêmes odeurs. Tout revient et envahit comme si ça se reproduisait sur le moment.
Dans le cabinet de Muriel Salmona, au front de la cour d'un immeuble de la région parisienne, Mie Koyama écoute attentivement les explications de la psychiatre. Les deux femmes se connaissent bien, elles partagent un engagement commun sur la question de l'allongement du délai de prescription.
J'ai envie d'ajouter aussi le fait que une mémoire traumatique, quand elle explose à la conscience, elle est tout à fait vérifiable. En interrogeant les personnes sur certains détails vestimentaires, sur certains détails de pilosité par exemple. Donc ça c'est une mémoire extrêmement précise. Et j'ai envie de dire que quand cette mémoire explose d'on ne sait où 32 ans après, soi-même, enfin moi en tout cas, on a l'impression de vivre quelque chose qui est complètement surréaliste. C'est-à-dire que soi-même en tant que victime au départ, on est complètement envahi émotionnellement et puis on est aussi envahi par le doute parce qu'on se pose la question d'où ça sort, qu'est-ce que c'est que ce mécanisme, etc., etc. Donc il faut tout un temps avant de pouvoir à peu près rassembler les émotions pour commencer à mettre des mots dessus. Et Dieu sait que mettre des mots sur des choses vécues enfant, c'est extrêmement compliqué. Donc on ne peut pas, par exemple, si on doit faire une démarche judiciaire, donc arriver à peu près « apaisé » entre guillemets devant un officier avec des éléments qui s'emboîtent, c'est tout un temps qui est long. Et si on ne prend pas le temps de faire ce travail de mise en mots et de s'apaiser un minimum, on n'est pas cohérent. Je veux dire, on arrive devant un officier de gendarmerie ou de police, je veux dire, on est en pièces, on part dans tous les sens.
Voilà, c'est en ça que vous parliez des diagnostics mal, d'épisodes de bouffées délirantes. On se retrouve à l'hôpital psy au lieu
d'être entendu. Et c'est vrai que là, ce que disait Mie, la mémoire traumatique, donc elle est bloquée dans l'amygdale cérébrale, donc cette petite structure qui a été déconnectée au moment du traumatisme par surcroît de stress. Hein, c'est une disjonction du cerveau pour protéger l'organisme. Et c'est comme une boîte noire qui a tout enregistré, mais qui a tout enregistré en dehors de représentations mentales, en dehors des fonctions supérieures. C'est-à-dire que, en fait, pour vous expliquer très rapidement, devant une situation extrême, totalement inhumaine, totalement terrorisante, comme peut l'être un viol sur un enfant, les fonctions supérieures bug. Du coup, il y a ce qu'on appelle une sidération psychologique totale, qui fait qu'il n'y a plus de possibilité de représentation. Alors, sur un enfant, plus il est petit, plus ce système de sidération est très important, parce que les fonctions supérieures, déjà, elles ne sont pas très présentes. Donc, qui dit fonction supérieure dit cortex, mais dit aussi hippocampe, tout ce qui est repérage temporo-spatial, qui va complètement bugger. Et comme ça bug, ça ne peut pas du tout contrôler la réponse émotionnelle. Et du coup, l'amygdale cérébrale, qui est une alarme, va considérer, en quelque sorte, si on peut la personnaliser, que du coup, on ne répond pas au danger. Donc, elle monte en puissance. Donc, elle sonne de plus en plus fort avec des sécrétions d'adrénaline et de cortisol qui représentent un risque vital pour l'organisme. Un enfant peut mourir de stress. Et le cortisol, ça c'est l'adrénaline, et le cortisol c'est le cortisol qui entraîne des atteintes neurologiques très importantes. Et c'est là que le cerveau va disjoncter pour isoler, un peu comme Tchernobyl, parce que ça fait une sorte de, ça isole cette alarme qui va rester allumée,
mais qui du coup ne va plus pouvoir sécréter d'adrénaline cortisol et va plus pouvoir alerter. Et c'est là où on se retrouve en dissociation traumatique. La dissociation, c'est quand même quelque chose qui est enfermant. C'est-à-dire, on n'est pas dans sa vie quand on est dissocié. Pendant toutes ces 32 années, ce n'est pas votre vraie vie. Enfin, y a quelque chose qui cloche, quoi. Y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, on est dans l'enfer de la mémoire traumatique qui explose et on met un temps fou pour se rétablir. Et enfin, ensuite, on peut commencer à se libérer, mais ça demande des années, ça demande un effort énorme. C'est un impact gravissime, je veux dire. Et on ne peut pas être dans une société qui ne reconnaît pas cet impact. C'est impossible.
Je me suis vraiment torturée. Je me suis dit, on va me rironner parce que c'est une vieille histoire. C'est pas une histoire importante. Je veux dire, il y a des crimes 10 fois plus horribles. Alors, je me donne toutes sortes de prétextes pour pas le faire. Et pourtant, c'était important pour moi de le faire. Mais j'avais une trouille terrible qu'on ne me croit pas, qu'on ne recueille pas ma parole. Et il s'est trouvé que je suis tombée sur une policière qui m'a écoutée sans dire un mot au départ, alors que moi j'étais dans un état de terreur absolue. Et à un moment donné, je me souviens, c'est au milieu de l'audition, elle me dit les pédophiles de cette espèce, ils agissent jamais en public, il n'y a jamais de témoin. Et en fait, le fait qu'elle prononce le terme de pédophile, je me suis dit, ah mais ça se trouve, elle me croit. Enfin, tous ces mots de cette femme ont eu un impact considérable, parce qu'en fait, pour la première fois où j'osais, 34 ans après, j'osais dire à l'autorité judiciaire, en tout cas me décharger de ce fardeau. Je savais que le volet thérapeutique m'appartenait, etc. Mais en tout cas, au niveau judiciaire, c'était hyper important. Et que cette femme m'entendait et me donnait des signes de me croire, c'était juste énorme. Alors elle est restée très professionnelle. Elle m'a dit qu'elle ne me cachait pas que les preuves que j'avançais étaient plutôt minces. Je lui ai présenté mes dessins, etc. Elle est restée très pro. Mais elle a eu une manière d'accueillir ma parole qui me faisait dire, parce que c'est quelqu'un de très droit, direct, qu'en tout cas elle me croyait. Ça a été vraiment capital dans le début de la délivrance, en fait. Ouais.
Donc je suis le commandant divisionnaire Guy Bertrand et je suis chef de la section intrafamiliale à la brigade de protection des mineurs de Paris. On applique la politique du parquet de Paris quand même ici à Paris, c'est-à-dire que même les faits prescrits, on recueille la parole de la victime. Alors sous la forme d'une plainte, même s'il n'y a pas de poursuite derrière, mais au moins on recueille le récit de la personne victime. Alors c'est sûr que plus de 30 ans ou 20 ans après les faits, c'est toujours un récit qui ne peut pas être très précis, qui parle de sensations, de sentiments, de ressentis qu'on a du mal à transcrire sur procès-verbal. Sur Paris, dans la mesure du possible, si l'auteur est identifié, qu'elle nous donne son nom, on va essayer de le localiser, on va vérifier qu'il n'est pas connu pour des faits similaires ou qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires. Et à la demande du parquet, s'il habite sur Paris par exemple, on va l'entendre librement. Il ne fera pas l'objet d'une garde à vue, il sera entendu librement, il va s'expliquer, il va bien sûr nier les faits, mais au moins il sera entendu et la victime quelque part, on l'aura écouté. Le système aura pris en compte sa démarche et son mal-être. L'intérêt de ce genre aussi de déclaration, même s'il n'y a pas de poursuite judiciaire, c'est de vérifier que la personne qu'elle dénonce n'ait pas commis entre-temps d'autres faits qui pourraient, là, s'ils ne sont pas prescrits, faire l'objet de poursuites judiciaires et peut-être d'une condamnation. Donc ça, c'est l'intérêt de prendre aussi ces dépositions. Alors l'intérêt pour le système, mais aussi l'intérêt pour la victime, parce qu'elle a besoin. Elle a caché ça, elle a souffert. Souvent, c'est des victimes qui ont vécu des traumatismes, qui ont eu des dépressions, qui ont eu des périodes de vie très difficiles, qui ont été suivies par des psys. Et leur démarche, à un certain âge, puisque là, on est prescription, c'est après 38 ans, donc 40, 41, 40, 50 ans, bon, c'est un travail sur elle-même, c'est un travail très dur, parce qu'on ne va pas déposer plainte à la police de gaieté de cœur, c'est toujours une épreuve, on va revivre des événements traumatique et traumatisant, donc on peut pas la rejeter en disant non, c'est prescrit, au revoir madame, personne ne va vous entendre. Non. Et souvent les victimes ne demandent pas à ce que les gens soient condamnés. Elles veulent déjà se libérer de ce poids et être entendues en tant que victimes, mais elles veulent des fois, elles se contentent, mais simplement qu'ils sachent que j'ai déposé plainte ou que j'ai été entendu. La victime sait que l'on est allé le voir, leur tourmenteur, et qu'on lui a mis devant la sérialité pour qu'il soit entendu.
Est-ce que pour vous, ça vous paraît raisonnable, l'allongement de la prescription ? Raisonnable dans le résultat qu'on peut en attendre ?
Je vous ferai une réponse de Normand. Si c'est pour la reconstruction de la victime, oui, c'est la vie des gens, c'est même s'ils ont déjà 50 ans ou 45 ans, il leur reste pas mal d'années à vivre, c'est pour eux. Moi, je place la victime en priorité. Maintenant, si c'est pour espérer un procès, une condamnation, faut pas se leurrer. Effectivement, la science a progressé, on peut, grâce à l'ADN, trouver, identifier les gens, mais ça, c'est que dans un certain type d'agression, c'est-à-dire les agressions contre X. C'est-à-dire l'inconnu, vous vous faites agresser, les tournantes dans les caves pour les mineurs. Oui, là, je dis, la science, effectivement, peut être d'une grande aide. 30 ans après, il n'y a que l'ADN qui peut être d'une grande aide. Maintenant, pour des viols au sein de la famille, vous n'avez rien. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. C'est dans une chambre, c'est dans un endroit clos, il n'y a jamais de témoin. Donc la justice, comment elle va faire ? Déjà, on a du mal pour les faits sur lesquels on enquête actuellement à obtenir des condamnations, parce que les dossiers sont durs à monter, c'est des enquêtes bien particulières, alors qu'on a tout l'environnement, qu'on travaille sur toute la famille, qu'on travaille sur la parole de l'enfant tout de suite, enfin, on a des éléments. Dans 30 ans, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir une femme qui va me raconter un calvaire, enfin, je vais avoir quelqu'un qui va me dire « Ben non, ben prouvez-le, et je ne pourrai rien prouver. » Et si on attend des condamnations, on ne les aura pas. Dans ce cas-là, je vous parle de tout ce qui est intrafamilial. Après, ben tout comme on fait pour les cold cases, tout ce qui peut avoir de l'ADN et que ça peut ressortir. Il y a quelques années, on a ressorti un viol d'une majeure 17 ans après. Bon, grâce aussi à l'ADN. Oui, là oui, parce que le gars, il va être condamné, il est en prison. Là, je comprends. Mais dans certains cas, ça va être très difficile. Alors, pour la reconstruction des victimes, je suis entièrement d'accord. Pour une condamnation judiciaire, c'est à voir.
Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Salas. Merci.
Bonjour, monsieur. Je suis Denis Salas, je suis magistrat de formation. J'ai été pendant longtemps juge des enfants. Mais maintenant, j'occupe des fonctions de chercheur, de directeur de revue, et je suis également président de l'Association française pour l'histoire de la justice. Je m'occupe de la mémoire de la justice, de son institution et de ses professions. La question centrale aujourd'hui, c'est le thème de la mémoire et de l'oubli. Pendant longtemps, on considérait que quand un traumatisme était subi par une victime, le temps de la prescription, c'est-à-dire le temps de l'oubli, était un temps nécessaire pour, non pas que la victime, mais pour que la société vive en paix. Qu'elle ne soit plus, comme le disait Paul Ricoeur, en colère avec elle-même, je dirais plutôt en conflit avec elle-même. Et donc, pour que la paix intervienne, il fallait que ce qu'on appelait les bienfaits de l'oubli effacent ce passé pour nous permettre de nous projeter dans l'avenir. Or, pour certaines victimes, il faut bien le dire, les bienfaits de l'oubli ne servent à rien. Et au contraire, ce n'est que la révélation des faits qui peut avoir un effet de pacification parce qu'elle aura aussi un effet de sanction sur l'auteur. D'où une modification fondamentale du temps du droit, dans le champ du droit. La prescription, donc l'oubli, va reculer de plus en plus pour faire place à un temps de la mémoire qui va venir au premier plan. On le connaissait pour la grande criminalité internationale et crimes contre l'humanité. Nous le connaissons maintenant pour les crimes d'abus sexuels où le temps de l'oubli ne permet plus d'apaiser les souffrances de la victime.
Et sur la question portée par effectivement plusieurs associations de victimes de l'imprescriptibilité de ces crimes sexuels sur mineurs, quel est-vous votre regard là-dessus ?
Sur la prescriptibilité, je dirais, il faut garder une échelle de gravité. Il ne faut pas la banaliser, je dirais. L'imprescriptibilité, on parle de crime contre l'humanité. On ne peut pas dire qu'on est en phase de crime contre l'humanité dans le cas d'abus sexuels, même si ce sont des crimes extrêmement graves. Par contre, on peut réfléchir à une extension de la prescription. On parle de 30 ans après la majorité, ça peut être une piste à étudier. Mais ça ne couvrira pas forcément tous les cas, mais on couvrira peut-être plus de cas. Je me souviens qu'à l'époque où le projet était avancé je crois, au niveau du Sénat, je trouve intéressant la réflexion d'un parlementaire qui avait dit aux assistants de victimes « Votre cas, oui, il est important, je le considère, mais trouvez-moi 2000, 10 000, 20 000 cas comme le vôtre et je légiférerai. » Vous voyez la différence, c'est-à-dire que le politique attend un fait social, là où l'association vous donne un fait individuel. Mais on ne légifère pas sur un fait individuel, on légifère sur un fait de société, suffisamment construit, conséquent, pour donner lieu à une loi.
Nous sommes de retour à Lyon, où vit Mieko Yama. Nous avons cette fois rendez-vous avec Réjane Varro dans une brasserie près de la place Bellecour. Réjane Varro est documentariste. Elle a 52 ans, une énergie de vie incroyable, mais aussi une très grande colère. Mie et Réjane se sont rencontrés récemment l'année dernière par l'intermédiaire de la policière qui a recueilli leur plainte à toutes les deux à 5 ans d'intervalle. Pour cet officier de police judiciaire, il y a des résonances dans l'histoire de ces deux femmes, un effet miroir malgré leurs différences. Entre 8 ans et 15 ans, Réjane Varro a été violée par un ami de sa famille. Elle n'a jamais oublié ses viols, aucune amnésie traumatique dans son cas, mais ce poids écrasant du silence, de la honte et de la culpabilité.
Passe un jour comme ça où vous faites la cuisine, après vous rangez un peu la maison et puis le volcan se réveille, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. C'est pas une prise de décision, c'est pas tiens j'ai décidé ce matin de parler. C'est le mal-être, la souffrance, la douleur qui fait que soit on meurt, il y a des victimes de pervers sexuels qui en meurent, qui se suicident tout simplement, employons les termes, hein, qui finissent à l'hôpital psychiatrique. Et puis il y a celles qui ont un petit peu plus de force psychique, qui était mon cas, où moi j'ai un instinct de survie certainement, qui fait que ben, je me suis mise à parler, et voilà, je l'ai dit à mes parents. Oui. J'avais 45 ans, hein, mais je n'ai pas porté plainte à 45 ans. Et donc vous vous dites à ce moment-là que ce n'est pas assez, quoi. Qu'il faut y aller, quoi. Faut y aller. Hein. Et donc un matin, là par contre, j'ai dit je vais aller porter plainte et... Vous faites une émission sur la prescription. Moi, je trouve que c'est injuste. Je trouve que c'est immonde pour les victimes. Je trouve que cette loi, elle est obsolète. Je trouve qu'elle oublie totalement des vies brisées et qui ne sont pas réparées par la justice. Et ça, c'est un combat. Moi, je me souviens, je disais, bon, bah, ça y est, elle tape mon témoignage. Je vais recevoir un papier, forcément, on va me demander de poser ma signature, lue et approuvée. Et voilà, et c'était scellé, c'était écrit. Je n'étais plus qu'une victime invisible. Ça ne suffit pas d'en parler à ses parents, d'en parler à ses amis. Ça ne suffit pas pour guérir. On est construit depuis tout petit avec l'idée de la justice et de l'injustice. C'est une incarnation de soi-même. C'est se dire, donc tout ça est très aligné, c'est bien moi. Et avec, effectivement, cette petite phrase, je vous crois. Moi, vous savez, je crois que je vais bien, là. Vraiment. C'est pas que je crois, je vais bien. Je commence à comprendre ce que c'est d'être heureux. Être heureux, c'est être léger, c'est tout. Retrouver une part de l'enfance que moi, j'avais pas connue, un peu de légèreté, d'insouciance, voilà.
Laurence Bisson, secrétaire générale du syndicat de la magistrature et juge d'application des peines. La difficulté, c'est que plus la justice intervient longtemps après les faits, et là, on est déjà actuellement à des personnes qui peuvent déposer plainte jusqu'à leurs 38 ans, là on irait jusqu'à l'âge de 48 ans, c'est que plus on est longtemps après les faits, plus le témoignage de la victime est fragile. Il se base sur des souvenirs, des réminiscences qui vont être extrêmement fragiles. Les magistrats ne seront pas nécessairement en capacité de confronter ça par rapport à des éléments objectifs liés à la scolarité, liés à des difficultés personnelles qui ont été connues par l'enfant à cette période-là. Et donc, finalement, la parole de la victime risque d'être plus mise en cause parce qu'elle présentera des incohérences, et c'est bien normal, parce qu'elle sera dans une situation de fragilité qui a été certainement accrue d'ailleurs par les faits qu'elle a subis. Mais inversement, la personne accusée sera mise dans une situation quasi impossible, qui sera celle de se défendre de ces accusations-là. Comment est-ce qu'on fait pour se défendre d'une accusation de faits qui ont été commis potentiellement 40 ans plus tôt ? La justice pénale, elle doit rester régie par un certain nombre de principes. Là, on est dans une fuite en avant qui produit finalement une incapacité judiciaire, et ce qui risque de se passer très concrètement, c'est en réalité des victimes placées dans une situation d'illusion qui est que à l'âge de 45 ans, elles pourront déposer plainte et obtenir une condamnation, alors même que dans la très grande majorité des cas, ce à quoi ça aboutira, c'est à des décisions de non-lieu ou de relax, c'est-à-dire que la personne ne sera pas condamnée, sur une base qui n'est pas celle de la mise en cause de la véracité de la parole de la victime, mais simplement de dire « nous ne pouvons pas établir avec au moins quelques éléments objectifs que ces faits se sont passés ». Nous pensons que le travail, il doit se situer ailleurs que dans les modifications législatives sur les délais de prescription. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de poursuivre des évolutions qu'on a déjà connues, qui consistent à avoir des dispositifs de prise en charge et d'écoute de la parole des victimes lorsqu'elles viennent se plaindre des faits, lorsqu'elles sont reçues dans des commissariats, dans des gendarmeries, de prise en charge à l'école. Et puis, pour les situations qui se sont déjà produites il y a des années, pour les personnes qui donc n'ont pas la possibilité de saisir la justice, comment est-ce qu'on essaie aussi peut-être de réfléchir à des réponses alternatives qui n'impliquent pas une condamnation pénale, qui n'impliquent pas une procédure pénale, mais qui peuvent relever de dispositifs finalement de médiation entre un auteur et une victime. C'est un travail extrêmement compliqué, mais la justice restaurative est pour l'heure très peu développée en France. Il y a des lieux dans lesquels on commence à envisager cette hypothèse-là. Évidemment que la demande sociale, elle est très forte pour une condamnation pénale, pour une justice pénale. Mais la justice pénale, elle doit rester enserrée dans un certain nombre de garanties et de principes. Et sinon, elle risque véritablement de se perdre à nouveau dans le risque de l'erreur judiciaire. C'est difficile à entendre et à dire erreur judiciaire dans ce domaine-là. C'est pourtant un domaine dans lequel on l'a connu. Ça a été tout un débat après l'affaire d'Outreau, évidemment, parce que la parole est une parole parfois fragile et qu'il faut, pour la justice, savoir prendre du recul par rapport à ça.
Quand la justice me dit les faits sont prescrits, c'est juste pas possible de l'entendre parce que je suis hantée, pénétrée, j'en fais des cauchemars par cette mémoire traumatique qui ressurgit nulle part à toutes les heures du jour, de la nuit, etc. Et que la justice me dise « Passez votre chemin, madame, les faits sont prescrits », c'est pas audible, émotionnellement. C'est totalement pas audible. Et c'est sur cette base-là que je commence à entrer dans cette lutte sur la prescription, parce que c'est juste pas audible pour moi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à un moment donné, je vais devoir accepter que je n'ai pas eu et je n'aurai pas de réponse judiciaire. Mais la raison pour laquelle je parle et que je continue à témoigner, c'est qu'il faut que même les auteurs aient cette conscience-là, c'est qu'un viol sur un enfant si jeune a des conséquences terribles et laisse une empreinte dévastatrice sur toute une vie, en fait. Je voudrais vraiment, par ce témoignage, qu'il y ait une prise de conscience majeure, que ce soit chez les, par exemple, nos responsables politiques, c'est des déchirures, c'est des fractures qui laissent des empreintes sur le plan intime, sur le plan psychique, qui, qui sont énormes et que le passage du temps n'efface pas.
Et pourquoi vous avez eu besoin de vous confronter à ça, de revenir ici ?
Parce que je pense que c'est une manière de clore cette histoire. Paradoxalement, ça peut paraître étonnant, mais je pense que c'est une des dernières étapes en fait de cette histoire. C'est-à-dire que tout mon chemin a consisté à essayer de réparer les morceaux. Quand j'ai demandé par exemple à la justice d'être confrontée à mon agresseur, mon idée c'était vraiment de mettre un visage sur un cauchemar qui datait de 40 ans en arrière, ce qui n'a pas été possible. Et donc comme après toute une procédure je ne vais pas et je n'aurai jamais de réponse judiciaire, pour moi c'était important justement d'ancrer les lieux, de voir que ce qui avait ressurgi à ma mémoire était bien conforme à la réalité, et puis de pouvoir désormais mettre cette histoire derrière moi en fait. Alors, c'était un besoin de réponse physique en fait, parce que quand la mémoire traumatique explose à la conscience, c'est comme un cauchemar en fait. Et j'avais besoin d'ancrer les choses de telle sorte à après pouvoir les mettre de côté. J'ai pas de souvenir précis de ce qui s'est passé après, puisque en fait mon cerveau a complètement occulté. La seule chose dont je garde trace par rapport à ce qui s'est passé à l'époque, ce sont mes dessins. C'est des dessins que j'ai dessinés après à l'école, en fait, où on aperçoit.
Donc là, vous avez une pochette avec ces dessins. Vous avez amené ces dessins.
Ouais, j'ai amené ces dessins, parce que je voulais montrer. C'est assez parlant. C'est des dessins qui, comme une espèce d'obsession, dessinent toujours cet homme avec la moustache. Donc mon père ne portait pas de moustache, cet enfant sans bouche qui crie au secours, ce serpent, plus tard je les ai montrés à des psychiatres qui m'ont dit que c'était très parlant des symboles phalliques en fait.
Oui, le symbole comme ça qui vous traverse en
exactement.
Fait.
Hein, exactement, et estampillé 31 janvier 78, c'est-à-dire quelques mois après les viols, et à nouveau cet enfant qui crie au secours, ces symboles phalliques.
Et ça, ces dessins-là, ils n'ont alerté personne en fait.
Ils n'ont alerté personne. On est en 78, à une époque où les enseignants de l'époque ne sont pas sensibilisés à ce genre de choses. Donc non, ils n'ont alerté personne. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est quand les souvenirs sont remontés à ma mémoire en janvier 2009 et que j'ai révélé tout ça à ma mère, elle a fait des recherches parce qu'elle s'est demandé où est-ce qu'elle avait failli, et elle a retrouvé ses dessins en fait. Voilà.
Et là, on voit encore effectivement le dessin d'un éléphant avec qui dit au secours maman.
Voilà.
Donc ça, c'est une petite fille de 5 ans qui se dessine et qui appelle au secours.
Voilà. Et en fait, dans ces histoires, c'est la première fois que je parle de ce qui s'est passé en français sur les lieux où ça s'est passé en fait. Parce que dans cette histoire, on a une espèce d'empreinte du mutisme, en fait. On a une empreinte du silence imposé. On a une empreinte de la terreur, si jamais on parle, qui vous poursuit toute votre vie, en fait. Et quand, il y a 15 jours, je suis revenue pour la première fois, j'ai pas pu parler. J'ai pas pu parler en français de ce qui s'était passé. Heureusement, j'ai rencontré mon ami Peter, donc je lui ai raconté en anglais. Alors évidemment, j'en ai parlé dans d'autres endroits. Je l'ai écrit, j'en avais jamais parlé là où s'étaient produits les faits en fait. Et effectivement, pour moi, c'est important de le faire parce que c'est une manière de dire à cet enfant traumatisé qui existe encore en moi que ce temps est terminé et qu'aujourd'hui je peux parler sans crainte, que je peux dire les choses une bonne fois pour toutes et puis pouvoir vraiment classer et ranger ce souvenir au rayon des souvenirs et non pas au rayon de cauchemars qui me poursuivront toute ma vie. Donc effectivement, je romps quelque chose en faisant ça, ouais.
Rose and white, my past, but I
Faut-il allonger la prescription pour les viols d'enfants? C'était un reportage de Delphine Gaucho, prise de son Clémence Bonfils et Marcos Darras, mixage Jean-Philippe Jeanne, réalisation Violaine Ballet, assistée de Stéphane Koum. À la semaine prochaine.
C'était Interception, merci Philippe Bardonneau. Dimanche prochain, entre 9h10 et 10h, Ma ville sans glyphosate, avec un reportage de Laurent Vatrin. Ce sera le thème du magazine. En effet, depuis le 1er janvier, l'usage des pesticides dans les lieux publics est interdit. Un vrai casse-tête pour les responsables d'espaces publics. Interception, dimanche prochain, ce sera entre 9h10 et 10h.